Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit le ministre de l'Agriculture, Nzinga Birianze Désiré. Avec lui, nous évoquerons la question de la politique agricole du gouvernement, du parc agro-industriel de Bukangalonzo, du service national et d'autres problématiques liées au secteur agricole en RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Monsieur le Ministre et bonjour à tous. Nous allons conjointement mener cette interview Alain Irung et Michel Kifindangoy. Monsieur le Ministre Nzinga Birianze Désiré, vous êtes ministre de l'Agriculture. Pour commencer, pouvez-vous nous donner ce qu'est le programme agricole du gouvernement aujourd'hui?
Bonjour. Le chef de l'État l'a si bien dit. La politique agricole aujourd'hui de la RDC se base sur la revanche du sol sur les sous-sols. On doit être clair là-dessus. On ne dit pas qu'on ne exploite plus les minerais, qu'on abandonne le sous-sol. Non. Aujourd'hui, ce sont les mines qui nous aident à avoir plus d'argent. Notre économie est basée vraiment sur l'exploitation minière. Mais au fait, on devra comprendre que l'on veut dire, parce que qu'est veut le peuple aujourd'hui? Le peuple veut à manger. La santé, il faut d'abord bien manger pour avoir une bonne santé. Pour produire, il faut avoir une bonne... Tout ça commence par le manger du peuple. Et c'est comme ça que nous disons, commençons par là, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, il faut le mettre en valeur. Si on le met en valeur, les gens vont se retrouver sans problème. On peut nourrir le monde, parce qu'il n'y a pas que le Congo. Partout on attend à manger, il y a ceux qui sont dans le désert, qui se battent aussi pour faire l'agriculture, et qui réussissent quand même. Et nous qui avons ces 80 millions d'hectares de terres arables, nous ne devons que prioriser ce travail-là du sol. Au fait, c'est quand même décevant que l'on soit ministre et que l'on vous demande 1 million d'hectares, que vous commenciez à courir même chez les chefs coutumiers. Voyez-vous, il faut arriver à maîtriser tout cela. De telle sorte que les producteurs, les gens qui viennent chez nous pour faire ce travail, n'aient pas de temps d'aller se battre contre les chefs coutumiers, d'aller à gauche et à droite avec des problèmes fonciers qu'il y a dans ce pays. Donc nous avons dit, notre politique va se baser sur la sécurisation des maraîchers, des paysans, des petits agriculteurs, parce que même les agro-industries, on n'en a presque pas. Hein. On peut parler de Kanyama Kasese et puis Bukangalonzo, mais ce n'est pas encore vraiment de l'agro-industrie qu'il faut. Donc nous ne pouvons que nous focaliser plus sur cette catégorie-là, des coopératives, des ONG, comme je l'ai dit ici. Et d'ailleurs, vous le savez, vous êtes à Kinshasa comme nous, nous sommes nourris par les maraîchers, nous sommes nourris par le petit paysan. Donc nous devons les accompagner techniquement, financièrement, matériellement, pour que eux et même dans la réglementation, parce que tout doit être réglementé. Et comme je disais, si quelqu'un a un hectare, bon, et que demain on vient, on spolie son terrain, et vous avez suivi à Kinshasa à plusieurs endroits où les maraîchers pleuraient et qui appelaient même le chef de l'État, président Ayakotale Labisso Makambo. Des choses comme ça, c'est vraiment désolant. Nous disons, vous avez votre lopin de terre, on créera un cadastre agricole qui protégera ces terrains. De telle sorte que, parce que vous êtes dans l'agriculture, même si on trouve de l'or en bas, que ça ne soit pas vraiment une priorité et que la priorité soit que l'agriculteur soit sécurisé. Donc j'ai été à Kipushi, je l'ai dit partout où je passe, c'est comme si c'était une prophétie. Ce sont des mamans qui me recevaient dans un autre cadre et qui regrettaient en disant, mais vous savez, chez nous ici, on fait l'agriculture, mais on est déçus parce qu'à Kinshasa, s'il y a le minerai en bas, quelqu'un il prend un permis de recherche, il vient, il ne nous donne même pas le délai de récolter tout ce qu'on a planté, il écrase le maïs et tout ça commence à exploiter les mines. Voilà ce que nous disons, la revanche du sol sur les sous-sols. C'est pour dire que les mines ont été beaucoup mises en exergue. Maintenant, l'agriculture va prendre sa place d'antan. Nous avons été parmi les 10 premiers producteurs du café au monde, parmi les premiers producteurs du thé, ainsi de suite. Mais tout ça c'est parti, c'est comme du vent. Et maintenant nous voulons prendre les taureaux par les cornes avec l'accompagnement du chef de l'État et du Premier ministre récemment, le Condé. Vous savez, il a toujours dit parmi les six grands piliers de son gouvernement, il y a l'agriculture. Donc nous allons vraiment faire tout pour que ces choses soient mises en exergue et que notre agriculture puisse donner les résultats qu'on attend.
Monsieur le ministre, dans ce pays, on a connu plusieurs slogans en ce qui concerne l'agriculture. Dans les années 80, c'était agriculture priorité des priorités. Aujourd'hui, le président de la République parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Y a-t-il suffisamment de volonté politique qui peut se matérialiser dans le budget pour qu'on ne parle pas que des slogans?
Bon, moi je ne vois même pas les moyens. D'abord, c'est la décision politique, l'engagement politique. C'est vers les années 80, justement, quand on a commencé à crier agriculture, priorité des priorités, que les gens ont cru que l'agriculture va se faire de soi-même. Ce n'est plus les mamans, les papas qui vont faire le champ et tout ça, où on va se reposer sur nos lauriers et tout ça, et que bon, la priorité va venir faire le travail, que tout a dégringolé. Mais moi, je crois que c'est l'engagement d'abord de tout un peuple, l'engagement de nous, les politiques. Chez moi, à la maison, je le fais. Avec des boîtes de nidos vides, après la consommation, on ne jette pas. On met de la terre. J'avais planté la tomate sur 4 boîtes de grande dimension. 3 mois après, on a eu les fruits de tomates et qu'on n'a pas acheté les fruits de tomates pendant 1 mois. Ça, c'est à la maison, à Rigini, dans un cadre où on ne peut pas penser faire de l'agriculture. Nous aussi, comme le chef de l'État, comme le Premier ministre, c'est eux qui nous impulsent et qui disent on doit le faire. Le chef peut le faire chez lui, à la maison, derrière la maison. Il peut y avoir une plate-bande quand il se repose, quand il quitte les tralala quotidiens. Mais il y va, il met même les feuilles de patates. Les feuilles de patates, ça ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et il y a même d'autres produits qu'on peut mettre qui ne demandent pas beaucoup de temps. Vous pouvez distrait et ça continue, ça ne se gêne pas, ça produit. Donc si nous le faisons, que chacun le fasse, si moi je le fais chez moi avec la tomate, l'autre le fait avec les oignons, ainsi de suite, vous verrez que, bon, en fait, on n'a plus à aller chaque fois faire des dépenses, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la santé et d'autres choses, quoi. Donc nous pouvons nous nourrir sans beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai dit, ne parlons pas trop du budget, mais notre travail pourra aider la République à rafluer ses caisses. Par exemple, nous avons la guerre à l'Est avec les ADF et tout ce monde-là. C'est de l'argent. Vous allez demander à l'État l'argent, mais il faut d'abord protéger le territoire national. C'est une priorité. On peut crever de faim, on peut serrer la ceinture, mais il ne faudra pas que nous perdions notre territoire, que nos frères meurent comme ça. Donc l'État a d'autres priorités. Mais nous, nous pouvons ensemble commencer déjà à produire. Et la chance que nous avons, en 3 mois, on a à récolter.
Mais en même temps, monsieur le ministre, comme vous le savez, ce pays dépense plus de 1,5 milliard de dollars dans l'importation des vivres, alors qu'on constate dans la périphérie de nos villes, dans nos villages, il y a des produits agricoles qui pourrissent parce que les paysans ne savent pas les acheminer dans les centres de consommation. Ne pensez-vous pas qu'il est opportun d'envisager une vraie politique agricole pour encourager ceux qui s'investissent encore dans l'agriculture afin de consommer d'abord la production locale?
Mais justement, nous parlons de cette politique. J'ai dit qu'on n'aura pas le temps de tout dire ici. Mais comme vous me donnez de l'eau à la bouche, j'y vais. Nous avons des problèmes de routes de dessertes agricoles. Ça, tout le monde le sait. Et là, vous pouvez parler du budget. Parce qu'il nous faut des engins que nous ne produisons pas. Et c'est clair, il faut de l'argent. Mais nous pouvons contourner cela et Dieu nous a bénis. De l'eau là-bas, au Congo central, le fleuve est là. Il passe dans toutes les provinces. Nous avons des rivières, nous avons des lacs. 22 000 kilomètres qu'on peut exploiter sur les eaux congolaises. Alors avec 22 000 kilomètres, moi je crois qu'il suffit d'avoir des pirogues, et ça c'est un projet que j'étais en train d'échanger avec nos techniciens ici. Au fait, la RDC n'a pas de problème de production, vous l'avez si bien dit. Nous produisons, mais nous n'arrivons pas à transporter, à distribuer. Donc je parlais de 22 000 kilomètres des eaux, nous allons les exploiter avec des projets comme ça, des pirogues qui peuvent facilement transporter 5 à 10 tonnes avec moteur, ça peut être sur les rivières, même le Kalamu ici, hein, de la source de Kalamu, on peut arriver à Gombe. Je parle maintenant des produits vivriers, par exemple, qui sont à Mweka, à Ilebo, qui sont dans le Kasaï, vous savez, il y a beaucoup de maïs, on ne parle pas du Katanga, mais avec ce moyen-là, le moteur peut tourner partout où on met ces pirogues de 5 à 10 tonnes, ça peut aller facilement et ça peut quitter Lualaba jusqu'au Congo central. Les lacs Kasaï, Maïndombe et tout ça, ça peut nous aider également. C'est des projets que nous avons, que nous ne pouvons pas étaler dans une interview, vous le savez. On aura le temps de discuter de la question. Mais ça nous préoccupe beaucoup. Et c'est comme ça que je dis, c'est vrai, il faut avoir le courage. Je ne le dis pas aujourd'hui, je ne demande pas au gouvernement de dire arrêtons l'importation de maïs. Mais on y arrivera. On en a parlé à la dernière réunion du Conseil des ministres. Il faut qu'on arrête. On a d'autres priorités que ça, d'importer le maïs, le riz, alors que nous en avons partout dans cette république ici. Bon, et voilà les projets de route. Le chef de l'État venait d'inaugurer avec son homologue ougandais une route qui va traverser le Nord Kivu. Et vous savez qu'à l'époque, le Nord Kivu, c'était le grenier de la République démocratique du Congo. Et vous savez encore qu'il y a le cacao là-bas. Tenez, nous avons une étude où on peut, avec 270 millions de dollars, on fait les cacao à 5 000 hectares. Après, à la production, vous avez 4 milliards 500 000 dollars.
Radio Okapi. Grande interview.
Un autre défi, Monsieur le Ministre, la RDC se plonge pleinement dans la zone de libre-échange continental. Et vous l'avez suivi, le chef de l'État a même inauguré une initiative du président ougandais de réhabiliter certaines de nos routes. C'est une manière de dire que l'Ouganda veut exporter vers la RDC suffisamment de sa production. À ce moment-là, on pense aussi que la RDC ne soit pas seulement une vaste zone de consommation de produits venant d'ailleurs. Ne pensez-vous pas que aujourd'hui, la relance des parcs agro-industriels de type Bukangalonzo ou Kanyamakasese devient opportune pour faire face à la zone de libre-échange?
Qu'on s'entende très bien, je n'ai pas dit qu'on abandonnait les agro-industries. J'ai dit qu'on n'en a pas, mais qu'on en aura. Et c'est à long terme. Allez, imaginez que vous voulez implanter une agro-industrie dans l'ex-province orientale. Ça ne vous prendra pas 2 mois, 3 mois, n'est-ce pas? Entre-temps, c'est la saison qui passe. C'est comme ça que j'ai dit, nous nous focalisons sur les petits agriculteurs. Si les micro-agro-industries existent, j'ai vu à l'est du pays des coopératives qui arrivaient à décortiquer le maïs avec des petites machines. Bon, il y a ceux qui font l'huile de palme et même l'huile raffinée. Donc, c'est des choses que nous allons prendre. C'est à court et moyen terme. Ça va se faire. Bon, les longs termes également, nous avons ce programme-là d'implanter les agro-industries dans toutes les provinces.
Monsieur le ministre, Michel a évoqué la question des parcs agro-industriels. Actualité oblige, il y a la question de Bukangalonzo. Beaucoup de Congolais estiment que Bukangalonzo est un échec. Quelle est votre recette pour redorer le blason de ce grand projet dans lequel l'État congolais a injecté beaucoup d'argent?
Non, dire que Bukangalonzo c'est un échec, on va vite à besogne, hein, et c'est dangereux pour le Congo. Je vous assure, nous travaillons sur Bukangalonzo, nous suivons ce qui se passe, nous savons ce qu'il y a, et vous serez surpris bientôt. On appellera la presse, on descendra sur les lieux à Bukangalonzo, et je vous assure, vous allez nous encourager. Et ça, il faut dire au peuple, et le peuple vous suivra pour nous encourager, parce que nous avons l'ambition de non seulement nourrir le Congo, mais l'Afrique et le monde. Je suis heureux d'annoncer d'ailleurs que le café congolais se vend à l'étranger maintenant de la bonne manière. Il y a l'honorable Magui Wakabuba qui produit le café à l'est de la République, à Rutshuru là-bas, et là a été exposé le café, et là a été médaillé d'or en France. Et on a posé la question, mais ce café-là, l'arabica que vous nous avez amené, ça vient d'où ça là? Il dit, de mon village. Et les Occidentaux sont venus jusque dans son village pour voir le sol et tout ça. Ils étaient épatés. Et nous ici, on dit, ben, en tout cas c'était un Congolais. On allait la décourager pour dire, mais toi tu es honorable, ne fais pas, ça ne produira pas. Mais elle est allée surprendre les gens à l'extérieur.
Monsieur le ministre, sur la question de Bukangalonzo, évidemment mon collègue Michel, qui a fait tout un grand dossier pendant toute la semaine sur les antennes de Radio Okapi, va revenir avec d'autres préoccupations. Mais il y a le service national, basé pour l'instant à Kanyamakasese, qui produit beaucoup, mais on a l'impression qu'il est presque abandonné à lui-même et qu'il se débat pratiquement pour survivre.
Je vous surprendrai que Kanyamakasese, c'est vraiment du domaine militaire, et ça, je salue les militaires qui nous viennent à rescousse, qui viennent faire le travail que nous devons faire. Et nous devons les encourager. Personnellement, je n'ai jamais été à Kanyamakasese. Je connais Kanyamakasese de loin. Mais je vois le travail qu'ils font. J'ai les statistiques. Parce que quand ils produisent, ça rentre dans nos statistiques de la République. Je les salue. Je dis, s'ils ont des problèmes, nous sommes en train de faire l'état des lieux. Nous passerons là-bas parce que c'est notre mission d'accompagner tous ceux qui sont dans l'agriculture. Nous arriverons, nous verrons le responsable. Nous allons appuyer. Et ce n'est pas seulement les services nationaux. Moi, j'étais en train d'envisager cela au Nord Kivu, à Masisi, où le Minagri a dans les 400 hectares, avec la question des miliciens et tout ce monde-là qu'il faut réinsérer. Nous allons aussi donner les 350 hectares, soit à l'armée, soit nous-mêmes, par un partenariat public-privé, pour que ces gens soient casés. C'est par manque de travail qu'on les manipule, qu'on les amène vers les tueries et tout ce que les chefs de l'État a dénoncé.
Monsieur le ministre, à propos de Bukangalonzo, votre prédécesseur a tenté de relancer le projet et il y a eu une production réelle de maïs à Bukangalonzo qui, malheureusement, avait été abandonnée faute de financement. Ne craignez-vous pas que vos efforts soient aussi battus en brèche parce qu'il n'y a pas une certaine volonté politique portée par tous les langues gouvernementales?
Non, je crois qu'il y a eu des problèmes de gouvernance et c'est pourquoi le chef de l'État a tapé sur la table pour dire ça doit changer. Il avait ses ambitions, il avait ses projets comme l'arrivage du sol sur le sous-sol, mais ça ne venait pas et après 2 ans, je crois qu'il avait eu raison de s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il fait. Maintenant là, c'est un gouvernement de guerriers comme on l'a dit. Bon, Bukangalonzo, je vous dis d'abord, on ne savait pas c'était l'initiative de qui. Et nous constatons que c'était l'initiative de la primature, parce que c'est la continuité, c'est vrai. Comme notre hôpital ici de cinquantenaire, hein, c'est la même chose. Qui a initié ces projets-là? La primature. Est-ce que les ministères de santé étaient associés? Je ne pense même pas jusqu'à présent, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas, ils ne savent pas qui a fait quoi dedans, l'État a mis combien d'argent, ce sont les personnalités qui ont mis de l'argent dedans, on ne savait pas. Nous, Bukangalonzo, nous venons de pénétrer Bukangalonzo. Nous comprenons ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, si les ministres de l'Agriculture s'est lancé dans cette affaire-là, on craignait plus la crise de Covid. Si on doit confiner les gens pendant 3 mois et que les gens ne sortent pas, les gens ne travaillent pas, mais à Kinshasa, on meurt. Raison pour laquelle le gouvernement a dit non, il y a Bukangalonzo là-bas. Sans savoir, il appartient à qui. Moi, je me dis seulement le sol, le sous-sol appartient à l'État congolais. Ils disent, ben non, Agriculture, vous ne pouvez pas faire un programme rapide pour que Kinshasa ne meure pas de faim. Ben, ils se sont jetés à l'eau, ils ont produit. C'est vrai, c'est depuis décembre qu'il y a eu des petits problèmes, nous n'entrons pas en détail, hein, ça nous y reviendrons, je vous assure. Soyez tranquilles, nous travaillons, Bukangalonzo n'est pas un échec, Bukangalonzo sera sauvé. C'est vrai, on a mis décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois, qu'on a constaté des histoires qui n'étaient pas à encourager là-bas. Nous, nous sommes venus, quand on vous dit guerrier, ce n'est pas pour fuir devant un coup de feu, c'est pour prendre le taureau par le corne et y aller. Et je vous dis, nous y sommes, nous y allons. Dans 1 ou 2 semaines, je vous appellerai la presse. Nous irons ensemble là-bas. Comme ça, vous nous direz s'il faut abandonner.
Monsieur le ministre, une autre actualité. Le ministre de la Santé, votre collègue, a déclaré la 3e vague de Covid. Et vous savez, avec tout ce qu'il y a en termes de riposte, ça a un impact certain sur l'alimentation des Congolais. Vous avez donné un exemple très simple. Chez vous, vous avez planté dans 3-4 boîtes de lait, vous avez planté des tomates qui ont réussi. Comment vous pouvez répercuter cette expérience à grande échelle pour que les Congolais qui vous suivent et qui sont butés effectivement au problème d'alimentation puissent trouver des solutions dans le contexte de la 3e vague de coronavirus?
Justement, je vous ai parlé des moniteurs, de ces agronomes que nous avons. Nous allons faire du terrain, nous allons aller sur le terrain avec vous la presse, parce que vous nous êtes très importants et c'est vous qui allez vulgariser cela. Nous allons visiter de maisons, nos maisons où nous le faisons, ou chez les autres qui les font. Moi je connais des députés qui font cela, je connais des ministres qui font cela. Donc c'est pas un complexe, on le fait. Et d'ailleurs moi ça me fait plaisir quand je fais ces cultures là, je change, je vois les merveilles de Dieu. Et les moniteurs vont commencer à aller expliquer dans les quartiers que c'est faisable, c'est possible, on ne peut pas tout acheter au marché, il y a d'autres qu'on peut avoir dans nos parcelles. C'est un travail d'information et de formation et ça se fera. On a beaucoup d'ONG, beaucoup de coopératives. Je crois que c'est une question de décision politique, on se mettra debout.
L'Olympe comme promesse, la terre comme avenir, l'Olympe comme prouesse, la terre comme devenir. Je m'attache à vivre libre au rythme des palabres, la victoire pour dire toi, moi.
ton âme passe. Pour n'accord au maboyé. La lingue c'est mon abino. Bisogno sauver l'ongo.
Je m'attache à vivre libre. À graver leurs dents le marbre. La victoire pour dire. Toi, moi, nous plantons. Un arbre.
Monsieur le ministre Nzinga Birianze Désiré, vous êtes ministre de l'Agriculture. Je vous pose deux petites questions. Pour moi, ce sera fini. Mon collègue Michel Kifinda posera aussi deux petites questions et on va vous laisser travailler. Vous avez donné un exemple très éloquent de Madame Maggie Rwakabuba avec le café. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres parties de la République, comme au Congo central ici, où des problèmes de semences, par exemple de la pomme de terre, et c'est des privés qui le font. Première question, quel accompagnement l'État peut apporter à ces privé en termes de semences, parce que c'est aussi un problème très sérieux. Ma deuxième préoccupation, c'est en rapport avec les centres de recherche. On a vu ce qui s'est passé avec l'OVG, avec l'éruption du Nyiragongo. C'est à ce moment-là qu'on se réveille, on dit que non, l'OVG devient très important. On a des grands centres de recherche, Yangambi et d'autres que je ne vous cite pas. Quel est le type de collaboration qu'au niveau du ministère, vous allez impulser avec ces centres de recherche?
Le ministre de la Recherche scientifique, il est quand même ancien par rapport au gouvernement. On a longuement échangé avec lui. Je commence par les semences. Les semences, si vous rentrez dans les budgets de l'État, vous verrez, le ministère de l'Agriculture accompagne les agriculteurs avec des semences, avec tous ces intrants, les pesticides et tout ça. Nous le faisons. Bon, c'est vrai, ce n'est pas encore assez. Et là, c'est question maintenant de moyens, parce que nous, on n'avait pas programmé ça. Avec nous, on va programmer que nous fassions nous-mêmes nos semences. Je donne un exemple. Un pays voisin, je ne veux pas le citer, j'étais à Goma, je pose la question aux agriculteurs, à ceux qui font le maïs. Je dis, bon, quand vous achetez vos intrants, les semences, tout ça, de l'autre côté, vous produisez comment par hectare le maïs, si on est le cas? Ils me disent, un hectare, nous produisons 2 tonnes. 2 tonnes. Moi, je dis, même si le sol a plein d'acide comme Kinshasa, Bukangalozo, on ferait peut-être 4 tonnes, 3 à 4 tonnes. Ce qui est un problème. Et je me dis, lorsqu'on paye l'argent, on nous facture réellement. Nous payons l'argent, on nous donne la semence. Mais c'est la bonne semence. Parce que je repose la question. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Non, eux, ils ont 4 hectares, on se pose des questions. Je dis, non, c'est clair. C'est clair. Ils se servent bien. Et vous, pour que vous dépendiez d'eux, ils vous limitent dans votre production malgré la semence que vous achetez. Et avec mon collègue de recherche scientifique, nous avons dit, on arrête. Bientôt, on va descendre à Yangambi avec les collègues de la recherche scientifique pour justement que Yangambi reprenne sa place, que l'INERA nous fasse du travail qu'il faisait avant, c'est-à-dire de préparer ses semences, de nous préparer tout. On prend tout l'argent qu'on a, ça fait quoi? Même si on peut avoir du retard de 3 mois, qu'on ne dépense pas et qu'on donne l'argent à la recherche scientifique, nous allons commencer à voir les semences, les intrants chez nous. Il n'y a pas qu'à Yangambi, à Bukavu, il y a des centres de recherche. À Massissi, où je vous ai parlé, les Minagri faisaient des semences. Donc nous pouvons le faire nous-mêmes dans notre pays. C'est une question d'organisation. Et ça, je vous dis, ça nous préoccupe. Je l'ai dit sans gêne parce que je sais qu'on en a parlé avec le ministre de la recherche scientifique. Il n'y a pas que lui, même celui de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons beaucoup de projets d'ensemble. Et puis finalement, d'ailleurs, moi j'ai un document ici, réduction des importations alimentaires, juin 2021. Ce n'est pas encore sorti. Donc, on ne le fait pas seul. Nous le faisons avec la pêche et l'élevage. Nous le faisons avec le développement rural parce qu'il y a les sites agricoles qu'il faut faire. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on nous donne ce temps. Nous savons que le temps joue contre nous. Peut-être qu'il faut aller jusqu'en 2023 pour que les choses changent. Mais entre-temps, les 2 années qui nous restent, il faut que les Congolais aient de l'espoir. Pas espoir même. Ils sentent que non, on mange. Moi, quand j'étais enfant, on mangeait 3 fois par jour. Hein, et que des fois, on me chicotait pour manger. Je refusais. Je choisissais de jouer au football que d'aller manger. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux rester en train de jouer au football et refuser d'aller manger? Nous voulons que les choses reviennent comme c'était à l'époque. Et ça, nous y arrivons.
Alors la toute dernière dernière question pour boucler cette interview, Monsieur le Ministre. Comme vous le savez, Africom, qui est votre partenaire, a même porté plainte contre la RDC à la Cour internationale d'arbitrage du commerce. Et votre prédécesseur avait demandé au DG d'Africom de sursoir sa plainte, le temps pour vous de voir comment améliorer votre partenariat. Et vous savez que dans ces partenariats, il y avait aussi l'objectif de la manufacture des produits agricoles. Comment comptez-vous relancer ce partenariat avec Africom, surtout dans le cadre de la manufacture?
Bon, justement, ça fait un mois. Moi, quand j'ai vu ce dossier, je l'ai envoyé chez les conseillers juridiques qui essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça à l'aveuglette. Est-ce qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison, qu'est-ce qu'il faut maintenant corriger? Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est la bonne intention. Posez la question à tous ceux qui viennent au ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Nous les recevons en 48 heures, ils ont la réponse. Et des fois, à d'autres, j'ai dit, mais vous les investisseurs, vous venez ici pour nous raconter des histoires, des invitations et tout ça. On vous les donne, on attend le feedback, vous disparaissez. D'autres qui disent, non, nous on le fait en une semaine. J'ai dit, non, mes chers amis, c'est en septembre ici que nous lançons la saison A. Ben, nous n'avons pas le temps à perdre. C'est comme ça qu'à certains endroits, nous sommes en train déjà de remuer la terre, de préparer la saison, parce qu'on ne dort pas. Donc avec Africom, on va voir. Et nous avons aussi une usine qui devait fabriquer les engrais à Bouma. Alors donc, nous sommes en train de voir. Parce que la question, ce n'était pas la mégestion, ce n'était pas l'abandon de l'État. Le problème, c'est qu'ils se sont rapprochés d'une mine de phosphate. Et dans cette mine-là, ils ont rencontré des difficultés. Et comme vous savez, le pays est ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui les a doublés. Eux, ils sont en train de construire. Nous avons une usine, que ce soit nos voisins angolais, même nos voisins de Brazzaville, ils n'ont pas cette usine-là. Ils ont le phosphate. Donc ils peuvent commencer même à venir chez nous avec la matière première pour qu'on leur produise les. Alors donc la difficulté se trouve à ce niveau-là. Donc je parle bien de savoir pourquoi ils sont partis. Je ne voulais pas dire que c'est ça la question qui s'est posée. J'ai voulu comprendre ce qu'il y a parce que moi je suis comme ça. Connaître les origines de la chose, comment ils ont évolué, quelles ont été les difficultés. Et je cherchais maintenant à donner des solutions. Alors comme il y a deux questions, cette question-là des relations avec eux, notre pays, et puis la question maintenant des matières premières qui se posera. Il faut anticiper. Et on a donné un permis de recherche à quelqu'un, un Congolais, qui est allé bloquer pratiquement l'exploitation de ces phosphates-là. Et nous, maintenant, nous sommes en train de voir, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut jouer. Est-ce que l'État peut retirer les permis de recherche? Je poserai la question à notre collègue ministre de Mines. Et si l'État peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour l'intérêt de la région? Je ne parle pas seulement de la RDC. Parce qu'aussi, ça nous coûte cher en Angola quand on va chercher les engrais et tout ça, tout ça. Bref, il y a deux problèmes, des relations avec Africom que nous allons régler. Je vais poser la question au conseil juridique, ça je vous répondrai aussi prochainement. Moi, je n'aime pas rester comme ça sans donner de suite aux préoccupations des gens. Et qu'ensuite, je suis en train de me battre pour que cette mine soit libérée afin que la machine tourne. Ça peut tourner avec le Congolais, ça peut tourner avec nous-mêmes. Mais c'est vrai que comme on était en partenariat, il ne faut pas oublier les autres, il ne faut pas dire vous avez perdu votre argent, on devient des escrocs. Et ça, nous, on ne peut pas permettre, quoi.
Pour terminer complètement cette émission, monsieur le ministre, quel est le message que vous adressez à ces millions de Congolais qui vous suivent tant ici au pays qu'à l'étranger pour leur redonner de l'espoir dans le secteur agricole?
Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Tout le monde peut trouver un petit lopin de terre pour y mettre ce qu'il veut, tomate ou quoi, avec notre accompagnement. Parce qu'il faut de l'ordre également. Bon, et ensuite, nous disons qu'on commence déjà dès nos maisons, dès nos villages, et puis nos concessions, on va élargir. Notre ministère est ouvert pour écouter, recevoir et accompagner ceux qui se lancent dans cette aventure-là. C'est une très bonne aventure, parce que c'est ça, les commencements de la vie. Nous sommes tombés, la RDC, avec la place qu'on avait dans les productions. Aujourd'hui, il y a moyen de se relancer en 3 ou 6 mois, je le dis chaque fois. C'est de pouvoir, par la voie fluviale, lacustre, comme je l'ai dit, avec le 22 000 km, qu'on puisse commencer à évacuer les produits de nos petits agriculteurs. Et qu'ensuite, nous allons continuer à les aider dans la distribution, dans la vente. Parce que la production du riz, des Bumba et du Maniema suffisait amplement pour nourrir l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, le Congo central avec les projets que nous avons et ailleurs dans les Bandundu, c'est des quantités qu'on ajoute et qu'on peut facilement exporter. Donc nous avons besoin de votre soutien, c'est à la population que j'ai fait ce message. Le soutien de la population, c'est de ne pas croiser les bras, mais c'est de commencer quelque part. Et là où vous êtes limité, venez nous voir pour une houe, pour une machette, on verra et on le fera. Parce qu'au moins ça, la République ne manque pas. J'ai vu des opérateurs économiques à Goma qui prennent le cacao de leur champ et qui fabriquent à Goma le chocolat, du bon chocolat. Et je ne veux pas vous dire que quand ça va sur le marché international, notre cacao est apprécié parce que nous avons un sol qui est riche. Donc c'est ensemble qu'on sera encore grand producteur du café, grand producteur du thé, de la vanille. Ça coûte très cher, ça peut nous ramener beaucoup d'argent. Et j'aimerais vraiment que Dieu nous prête vie et que le chef de l'État, qui a vraiment encore de l'énergie à donner pour ce pays, trouve son deuxième mandat et que vous verrez, peut-être après ce mandat-là, les gens au Congo vont commencer à négliger, à manger, comme je l'ai dit quand on était encore enfant. Et c'est pour cela que j'appelle tous les Congolais qu'ils aient confiance au chef de l'État et à son premier ministre. Je crois qu'il a bien choisi Sama Lukonde, qui est un warrior et qui a voulu que ses ministres soient des warriors pour vraiment aider les populations à travailler, à se nourrir et lui de faire la politique d'accompagnement dans tous les sens que j'ai évoqués dans cette émission.
Voilà. Monsieur le ministre Nzinga Birianze Désiré, merci de nous avoir reçus dans votre bureau.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission Grande Interview, menée conjointement avec Michel Kifindangoy, qui coordonne cette émission. Alain Hiroux, c'est moi, je la supervise. Merci à vous tous. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.